plaît, dans le livre des Actes. On s'en va au chapitre 11, verset 18. On va relire le verset 18, puis on va enfiler ça jusqu'au verset 30. On va aller ensemble dans un mot de prière. Actes 11, 18 à 30, et puis on va prier avant de commencer. Père éternel, nous sommes assemblés pour écouter ta parole. Nous sommes assemblés, Seigneur, parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu que tu as inspirée. Nous sommes assemblés, Seigneur, parce que nous croyons qu'à travers ta parole, tu nous racontes aussi tes hauts faits, ce que tu as accompli, afin que nous puissions être édifiés, être instruits, être encouragés, Seigneur, par ce que tu as fait dans le passé et ce que tu veux faire aujourd'hui, maintenant, dans nos vies, dans cette Église, Seigneur, dans cette région où tu nous as placés pour être un témoignage à ta gloire, dans nos familles, et en te servant de nous, Seigneur, même pour le champ missionnaire jusqu'aux extrémités de la terre. Père, je veux te rendre grâce, je veux te remercier pour ton esprit qui habite en chaque personne qui a placé sa foi dans le Seigneur Jésus pour le salut de son âme. Je remercie pour cet esprit qui nous parle, cet esprit qui nous convainc de pécher lorsque nous nous sommes éloignés de tes voies. Cet esprit qui nous fortifie pour marcher dans la sainteté, Seigneur. Cet esprit qui produit en nous de l'amour, de la miséricorde, de la grâce, Seigneur. Père, nous voulons te confesser ce matin que trop souvent nous avons attristé et nous attristons ton esprit. Nous résistons à ce qu'il nous dit par ta parole et simplement par l'inclinaison de notre cœur à faire le bien, mais nous résistons trop facilement, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te dire que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ton esprit qui est bien vivant soit là à l'œuvre en nous, actif en nous. Qu'il nous accorde la repentance. Qu'il nous accorde la force pour marcher dans tes voies. Qu'il nous accorde la grâce de regarder à toi plutôt qu'à nous-mêmes. Qu'il vienne remplir nos cœurs de joie, même à travers les épreuves les plus difficiles, Seigneur. Qu'il vienne fortifier notre foi pour que nous croyions ta parole, Seigneur, et que nous marchions de jour en jour remplis de ton esprit. Ô Père, nous avons besoin de toi quotidiennement. Seigneur Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens et remplis-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Transforme-nous ce matin, Seigneur. Et parle à toute personne dans cette salle qui ne te connaîtrait pas personnellement comme Sauveur et Seigneur, qui ne serait pas passé par la nouvelle naissance, qui n'aurait pas reçu ton Esprit Saint, Seigneur. Parle à son cœur, mon Dieu. Attire-la à toi et ouvre les yeux de son cœur afin qu'elle puisse saisir ces choses. Saisir l'œuvre que tu as accomplie sur cette croix pour elle-même. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Acte 11, verset 18. Verset 18, c'est vraiment la fin de cet épisode où Paul est envoyé littéralement par Dieu pour aller annoncer l'Évangile dans une maison de païens, de non-juifs. Et il vient faire son rapport à l'Église de Jérusalem qui, au départ, lui adresse des reproches parce qu'il est entré, il a vécu dans la maison d'un païen, quelqu'un qui était impur rituellement. Et puis, il leur fait tout le récit, il leur raconte comment Dieu a dirigé toutes ces choses-là et à la fin, l'Église se réjouit. Et au verset 18, on lit, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Luc continue en disant, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet au temps, en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée et ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Dans ce passage-là, on assiste à quelque chose qui est vraiment qui est beau. Pour moi, ce qui va se produire ici à travers quelques personnes, puis ça va conduire à l'établissement d'une église, j'ai l'impression de voir le cœur de l'Évangile en action. Voyez-vous, il y a un groupe d'individus dans un effort spontané, des chrétiens ordinaires, ce n'est pas les leaders, ce n'est pas les apôtres qui partent de Jérusalem, mais qui spontanément, ils ont sur leur cœur d'annoncer l'Évangile. Ils annoncent l'Évangile sans aucune barrière, sans aucun préjugé. Et cela va conduire à la naissance de la première Église des nations. Appelons-la comme ça, d'accord? C'est l'Église d'Antioche, on s'entend? À cette époque-là, on appelait ça l'Église de Jérusalem, l'Église d'Antioche. Mais elle est particulière, c'est la première Église où le nombre de personnes qui la composent est soit équivalent ou même probablement plus nombreux sont des païens qui se sont convertis. Ce sont des non-juifs qui sont venus à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Le phénomène était tellement important. Je dois vous dire quelque chose sur Antioche. Antioche, c'est la troisième ville en importance dans Rome, d'accord? Dans l'Empire romain, d'accord? Rome, Alexandrie, Antioche, trois plus grandes villes de l'Empire romain. 500 000 habitants environ, c'est ce que l'historien Joseph nous dit. Environ 500 000 habitants à l'époque. Le phénomène est tellement important dans cet effort spontané où des gens vont partager leur foi. Le phénomène est tellement important que la population ou l'Église ou je ne sais pas qui, ce n'est pas spécifié dans le texte, doit trouver un nom à ces gens-là. Il y a une nouvelle catégorie qui est née. Ce n'est plus aux yeux de la population une secte juive, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'on voyait les premiers chrétiens. C'est une secte parmi les Juifs qui croyaient que certaines prophéties s'étaient accomplies. À leurs yeux, ce n'est plus simplement une secte juive. Mais non, l'Église est composée d'un grand nombre de non-Juifs qui se sont convertis. Ce n'est pas un nouveau mouvement non plus païen simplement. Alors voyez-vous, l'Église n'est pas à proprement parler juive, n'est pas à proprement parler païenne. On les appelle chrétiens. Ceux qui suivent le Christ, les disciples du Christ. Et c'est la première fois que cette expression-là est utilisée. La semaine dernière, c'est pour ça que j'ai lu le verset 18. La semaine dernière, on a vu ensemble un moment tournant dans l'histoire du livre des Actes, mais dans l'histoire de l'Église universelle, où clairement, Dieu va prendre par la main l'apôtre Pierre et il va aller le conduire afin qu'il entre dans la maison d'un païen, qu'il le conduise à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et Dieu est là et conduit chacune des étapes afin d'attester, de mettre son sceau pour dire « ça vient de moi, ouvrez votre esprit, allumez, réveillez-vous, sortez de vos carcans et allez annoncer l'Évangile à toutes les nations de la terre ». Et il les prend par la main dans ce processus-là. Et si je comprends bien l'intention de Luc maintenant avec ce qu'il nous raconte, Luc est en train de nous dire, maintenant on va voir ce que ça donne ça. On va voir la réalisation de tout cela. On va voir, on va assister à la première église des nations composée probablement majoritairement de païens qui se sont convertis, de non-juifs qui sont venus à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et donc je pense que Luc est en train d'illustrer ce qui vient de se passer avec Corneille, illustrer comment est-ce que cela est venu s'appliquer. Maintenant, il y a des leçons pour nous là-dedans. Il y a des leçons vraiment précieuses pour l'Église. Vous savez, quand on pense à l'Église, les gens de l'extérieur, à tout le moins, ceux qui ne connaissent pas l'Église de Jésus-Christ, quand ils pensent à une Église, ils pensent à soit des mouvements sectaires ou ils pensent à une institution. Une institution, une organisation très structurée où les choses sont prescrites, les cadres sont définis. Il faut rentrer dans cette institution-là. C'est la vision que les gens ont. Et ils n'ont pas entièrement tort parce que l'histoire de l'Église est parsemée d'institutions qui ont été créées, qui sont devenues vraiment une espèce de carcan qui empêchait carrément l'œuvre de l'Esprit de se faire. Il y a des belles leçons dans ce passage-là pour l'Église de Jésus-Christ pour aujourd'hui. Il y a des leçons extrêmement précieuses. Ce matin, on va voir ensemble que la première Église des nations est le fruit d'une œuvre spontanée de chrétiens ordinaires poussés par l'Esprit qui annonce la bonne nouvelle du Seigneur Jésus en toute simplicité. Comme vous pouvez le voir dans l'inséré, je résumerai la prédication en 3 points. Une œuvre spontanée par des chrétiens ordinaires, l'appui du Seigneur, la main du Seigneur qui est avec eux, et troisièmement, des leaders et des chrétiens qui se réjouissent, encouragent et appuient l'œuvre que Dieu a lui-même commencée. Qu'est-ce qu'on a ici pour la naissance de cette Église-là? Pas de stratégie particulière. On a un groupe d'individus qui ont cru dans la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Première qualification pour pouvoir faire ce travail-là, d'aller annoncer, c'est évidemment de connaître le Seigneur Jésus. Donc, on a un groupe d'individus qui ont entendu parler de Jésus-Christ, ont compris le message, se sont convertis, sont devenus des chrétiens. Ce sont des disciples de Jésus-Christ et qui partent et qui partagent. C'est pas plus structuré que ça. C'est une œuvre très, très, très spontanée. Ce sont des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu et qui ont à cœur quelque chose, qui se lancent spontanément dans la mission. Cherchez le leadership, où est-ce qu'il est, il va être à la remorque ici. Cherchez les gens de Jérusalem, où est-ce qu'ils sont, ils vont être à la remorque ici. Spontanément, des gens qui ont connu l'Évangile de Jésus-Christ, poussés par l'Esprit de Dieu, décident d'aller annoncer l'Évangile. Non seulement ils décident d'aller annoncer l'Évangile, mais ils décident de sortir des sentiers battus. Luc prend le temps de nous préciser au verset 19 que ceux qui avaient été dispersés annonçait la parole, mais il prend le temps de dire « annonçant la parole seulement aux Juifs ». Alors, vous avez les chrétiens qui ont été persécutés avec la mort d'Étienne, les persécutions ont commencé, ils sont dispersés, ils s'en vont, et par réflexe, ces Juifs convertis, ces Juifs devenus des disciples de Christ, vont vers les gens de leur culture, les gens avec qui ils sont à l'aise, les gens où il y a des contacts, ils s'en vont dans les synagogues. Ils arrivent de ville en ville, ils vont dans les synagogues, ils vont annoncer l'Évangile là. Paul va continuer à faire ça. C'est pas fou du tout. Mais il y a un petit groupe d'individus parmi ces gens-là, quelques hommes, nous dit Luc, qui dit « ouais, mais attends un petit peu ». Et c'est même pas clair dans le texte ici si ces gens-là étaient au courant que « ok, on vient de recevoir un feu vert, il y a un courriel qui vient d'être envoyé, Pierre est revenu à Jérusalem, ça marche, Jérusalem endosse, tout le monde peut y aller, vous pouvez aller taper à la porte de votre voisin ». C'est même pas clair, on ne sait pas. Luc n'est pas toujours précis dans ses chronologies. Est-ce que ces gens-là sont au courant de ce qui s'est passé avec Corneille? J'ai tendance à croire que non. C'est vraiment pas évident dans le texte, ça. Mais l'ordre de mission a été donné, il est clair, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et afin qu'on sache que Dieu est d'accord avec ça, le Saint-Esprit a inspiré Luc à nous donner ces récits-là dans cet ordre précis, où Dieu a confirmé à travers la conversion de Corneille que Dieu veut qu'on aille vers toutes les nations, et on voit ça maintenant passer à l'action. Mais si je reviens avec ces quelques personnes-là, là, je ne sais pas combien ils sont, quelques hommes, 4-5 gars qui disent « Ouais, mais attends un petit peu. » Parce que là, on est parti de Jérusalem, puis on annonce l'Évangile seulement aux Juifs. Mais qui va aller vers ces gens-là? Qui va les prendre à cœur? Et spontanément, ces hommes-là décident d'aller vers les Grecs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ces hommes-là décident de sortir des sentiers battus. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de directive, il n'y a pas de comité qui s'est formé, il n'y a pas eu d'approbation qui vient de Jérusalem pour dire « Go les boys, foncez! » En fait, Jérusalem va apprendre tout ce que Dieu est en train de faire d'extraordinaire là-bas. Ce sont des missionnaires naturels. Qu'est-ce que ça prend pour être un missionnaire naturel? Connaître Jésus-Christ, personnellement? En principe, si je connais Jésus-Christ, j'ai reçu l'Esprit-Saint. Voilà, je suis un missionnaire naturel. Laissez l'Esprit me conduire maintenant et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voyez-vous, ce n'est pas que Dieu en a contre l'organisation, le leadership qui donne une direction. En fait, plus on va avancer dans le livre des Actes, on va voir que Paul est mandaté, puis Paul est un leader, puis il y a l'approbation de Jérusalem, puis Paul va diriger. Donc, Paul a toujours une stratégie, il s'en va de telle ville, telle ville, telle ville, puis là, on va aller là, puis il place des gens. Puis, donc, les gens suivent un leader, sont en train de suivre Paul. Dieu est d'accord avec les stratégies, avec l'Église qui donne une direction, les anciens qui prient, puis qui cherchent une vision, puis on va aller dans telle direction. Dieu est d'accord avec ça. C'est pas que Dieu en a contre ça et que tout ce que l'Église fait doit naître spontanément de la part d'individus dans l'Église. Mais rappelons-nous quand même. Rappelons-nous ce que Pierre a dit à la Pentecôte. L'apôtre Pierre a dit « Voici, la prophétie de Joël s'accomplit. Le temps est venu où l'Esprit de Dieu est répandu sur tous ceux qui croient. Et comme ils ont tous l'Esprit de Dieu, et comme ils ont tous connu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, ils partagent ce qu'ils ont reçu. Et ils deviennent par le fait même des missionnaires naturels. Ils n'ont pas besoin d'attendre que le leadership soit là pour donner une direction. Ils n'ont pas à douter d'eux-mêmes. Ils ont sur leur cœur de partager Jésus-Christ. Mais tu as besoin de quelle approbation pour faire ça? S'il y a un pasteur qui vous refuse ça, dites-moi-le, on va s'en occuper. C'est quoi ça? Ce sont des missionnaires spontanés qui ont connu personnellement Jésus-Christ et qui sont prêts à sortir des sentiers battus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de cet effort-là spontané va naître l'Église d'Antioche. L'Église d'Antioche, si vous connaissez le livre des Actes, c'est la base, c'est le camp de base de la mission vers les nations. Frères et sœurs, nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Et si Dieu place sur votre cœur le désir d'aller vers des gens, parce que vous regardez l'Église, puis vous regardez l'Église de l'espoir, vous regardez l'Église universelle, vous regardez l'Église en général, puis vous dites, « Ouais, mais moi, il y a ces gens-là, puis je les ai à cœur, puis il me semble que personne ne va vers eux. » Mais c'est possible que ce soit parce que Dieu veut que tu y ailles. Et Dieu est en train de le placer sur ton cœur. Et tu n'as pas à t'interroger à savoir si tu devrais le faire. Dieu l'a placé sur ton cœur, vas-y, fonce. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Voyez-vous, lorsqu'on étudie l'histoire de l'Église en général et l'Église de l'espoir spécifiquement, Dieu se sert constamment d'individus qui ne sont pas dans le leadership de l'Église et il place sur leur cœur un désir, un fardeau et il passe à l'action. Chez nous, on a Bouffe pour tous. Bouffe pour tous, ça a commencé dans deux cœurs qui n'étaient pas sur un conseil d'anciens. Chez nous, on a les clubs pour enfants, Prof Dino, ça a commencé dans un cœur. Il n'était pas sur un conseil d'anciens. Karine nous parle du projet Jamais tout seul, c'est dans un cœur. Si vous connaissez l'histoire de Hudson Taylor, c'est un jeune homme qui s'en va en Chine et qui a à cœur les Chinois comme les missionnaires de l'époque ne les avaient pas à cœur. Et il veut vivre avec eux, il veut aller vers eux, il veut être à l'aise avec eux, il veut vivre au milieu d'eux pour pouvoir leur partager l'Évangile. Et de cet effort-là, de l'effort de cet homme-là, va naître tout un mouvement missionnaire énorme. Est-ce possible? Vous avez tous l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. Vous avez tous l'Esprit de Dieu. Dieu place quelque chose sur votre cœur, go. Vous dites, oh oui, mais je me sens pas équipé, je sais pas comment est-ce que je vais faire ça, je sais pas où je m'en vais. Viens nous voir, c'est notre rôle. Si vous connaissez Éphésiens, vous rappelez-vous d'Éphésiens 4, le rôle premièrement des pasteurs dans l'Église, c'est de vous équiper. Afin que vous fassiez l'œuvre du ministère. Fait qu'il y a quelque chose sur ton camp qui est là, qui brûle. Tu dis, oui, mais je me sens pas prêt pour ça. Viens nous voir. On va chercher tout, par tous les moyens possibles de t'appuyer, de t'équiper pour que tu puisses entrer dans cette œuvre-là. Tu dis, oui, mais j'aimerais ça que toute l'Église soit là avec moi. Bon, OK, viens t'asseoir avec nous. On va s'en parler un petit peu quand même, tu sais. Mais viens nous voir. Écoute ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et Dieu peut servir de tout le monde ici dans cette salle. Pas simplement du leadership qui est en avant. Dans ce cas-là, le leadership n'avait aucune stratégie immédiate pour Antioche. Ce sont des chrétiens ordinaires, pas des apôtres, pas des prophètes, pas des évangélistes reconnus, pas des gens identifiés par le leadership, des chrétiens ordinaires poussés par l'Esprit de Dieu qui entrent dans cette œuvre-là. Mais la main du Seigneur était avec eux. Et ça, il faut le reconnaître. Dans la mission, c'est Christ qui dirige. Dans la mission, c'est Christ qui définit les résultats. Dans Matthieu 28, 18 à 20, simplement pour vous le rappeler, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais regardez ce que Luc dit au verset 21. Verset 20, spontanément, quelques hommes décident de proclamer l'Évangile, d'annoncer l'Évangile, sortent des sentiers battus. Verset 21, « La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Et par le fait même, Luc est en train de nous rappeler, on est tous au service de la mission. On est tous des serviteurs et celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Celui à qui les pouvoirs ont été donnés dans le ciel et sur la terre, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui détermine les succès ou non. Fait que des fois, on a des choses sur notre cœur. Puis là, on dit, ça vient-tu de toi, Seigneur? Est-ce que tu vas être avec moi? Mais je vous donnerai juste une règle de sagesse générale. C'est sûr que Christ est avec vous. Des fois, il est content, des fois, il n'est pas content. Mais il est avec vous, il l'a promis. Si dans votre cœur, ce que vous avez, c'est d'aller partager l'Évangile à des gens, vous voulez leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, faire d'eux, dans la mesure du possible, des disciples de Jésus-Christ, pouvez-vous vraiment encore vous poser la question à savoir si Christ est avec vous? Est-ce que c'est légitime même de se poser la question? Christ est avec vous. Tout pouvoir lui a été donné. Après, ce que je pense que Luc est en train d'illustrer ici, c'est les résultats, les conversions, le grand nombre de personnes qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ, c'est entre les mains du Seigneur. Mais encore là, il y a un encouragement pour nous. Notre travail à nous, ce n'est pas de convertir des gens. On ne peut pas convertir des gens. On ne peut pas les forcer à passer par la nouvelle naissance. Ça se passe entre Dieu et eux, ça. Notre mandat à nous, c'est de proclamer Christ. Et donc, je n'ai pas à porter ce fardeau-là. Dans certains cas, vous allez avoir quelques hommes comme ici qui partent, qui annoncent l'Évangile, puis boum, les gens se convertissent, c'est extraordinaire. Dans d'autres cas, je vous ai partagé à deux reprises dans les derniers mois l'histoire de William Carey, premier missionnaire, un des premiers missionnaires contemporains en Inde. 6 à 7 ans à proclamer, à annoncer l'Évangile sans aucune conversion. Il y avait des murs culturels incroyables à franchir. Et cet homme-là n'était pas bien reçu à cause de l'histoire des Blancs dans cette région-là, évidemment, des Européens dans cette région-là, évidemment. 6-7 ans à essayer de traverser ces murs-là en bâtissant des jardins communautaires, en servant ces gens-là et en annonçant Jésus-Christ. Jésus était avec lui. Mais la puissance de la présence de Christ s'est manifestée dans les années qui ont suivi. Après 6-7 ans, les gens ont commencé à répondre à ce message-là et à venir à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et encore une fois, un mouvement missionnaire puissant est né là. Si vous avez sur votre cœur l'avancement du royaume de Dieu, vous avez sur votre cœur d'aller vers des gens pour leur partager Jésus-Christ, leur annoncer en toute simplicité, j'aime comment c'est dit dans les Actes, dans ce passage-là, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Si ça ne vous dit rien, ben venez nous voir après. Mais vous avez ça sur votre cœur. Christ est avec vous. Allez dans la prière et dites-lui, Seigneur, je veux que tu sois puissamment manifeste. Je veux que tu te manifestes avec puissance dans cette œuvre-là. Parce que je sais, Seigneur, que ce n'est pas moi qui convertis les gens. Personne qui va venir à toi si le Père n'est pas actif dans ça, s'il n'est pas en train d'attirer, si ton esprit n'est pas là. Mais vous avancez en remettant les résultats au Seigneur, en sachant que c'est lui le directeur de mission. Et dans ce cas-là, ici, c'était absolument évident que le Seigneur avait sa main sur tout ce qui se passait parce qu'il y avait un grand nombre de conversions. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'initiative ne venait pas de Jérusalem, l'initiative ne venait pas du leadership. Fait que si on aborde le texte, juste en pensant à ce que c'est le cœur humain, en pensant à ce que c'est une église, en pensant à ce que c'est comment on fonctionne, ben on serait en droit de se poser la question, comment va réagir Jérusalem? Les apôtres ont eu un mandat, c'est eux qui sont là pour déposer, pour poser le dépôt, et raconter l'histoire de Jésus-Christ, ses hauts faits, ses enseignements, c'est aux apôtres que ça a été confié, mais il n'y a pas d'apôtre impliqué ici. Comment va réagir Jérusalem? Jérusalem reçoit un écho. Il y a quelque chose d'autre qui est parti par là-bas, les boys, on envoie quelqu'un, on envoie Barnabas. On le dispatche pour qu'il s'en aille là-bas. Ça va voir ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas d'apôtre impliqué, est-ce que c'est kosher ce qui se passe là-bas? Comment va réagir Jérusalem? Voyez-vous, on voit encore une fois ici la manifestation de l'Esprit de Dieu dans la réaction des leaders et des chrétiens eux-mêmes. Et je pense que ça va vraiment dans les deux sens, on va le voir ensemble. Mais on voit dans ce passage des leaders et des chrétiens qui se réjouissent, qui encouragent, qui appuient l'œuvre que Dieu a commencée. Regardez comment Barnabas réagit. Et ça venait de Dieu que ce soit Barnabas qui aille. Parce qu'il est appelé fils d'encouragement. Au verset 22, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Je vois dans le passage ici une vraie joie dans le cœur de Barnabas dès qu'il voit la grâce de Dieu à l'œuvre. Et c'est ça la réaction du leadership. Et ici, c'est ça. Il voit la manifestation de la grâce de Dieu, il y a des gens qui sont venus à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui transpire dans le texte que mon Barnabas a sorti son calepin. OK, qu'est-ce qu'ils ont compris? Où est-ce que vous avez passé? Qu'est-ce que vous avez couvert comme sujet avec eux? Ouais, mais attends un petit peu, là, j'ai vu qu'ils n'ont pas brisé toutes leurs idoles encore dans la maison. Est-ce que vraiment ils ont compris qu'on adore juste Jésus-Christ? Il n'y a rien de ça qui transpire ici. Tout ce qu'on voit, c'est cette joie de voir la grâce de Dieu. Et savez-vous quoi? si je comprends bien ce qui se passe spirituellement ici, à cause de sa réaction qui n'est pas critique, mais qui se réjouit, cela le pousse à l'encouragement. Et il y a un autre commentaire de Luc ici. Verset 23, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, et je m'en vais à la fin de ce verset, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Si je comprends bien ce qui se passe ici, il y a deux vagues de conversion. La première, c'est lorsque les quelques hommes commencent à ouvrir la bouche, annoncent Jésus-Christ. Puis là, il y a des gens qui viennent à la connaissance du Seigneur. Puis là, oups, le leadership arrive, s'en vient voir, qu'est-ce qui se passe ici. Waouh, il se réjouit de voir ça. Il les encourage. Et Luc semble vraiment faire le commentaire de dire, boum, il y a encore une autre croissance qui sort de là. Je pense qu'on voit ici à quel point l'encouragement et se réjouir simplement de la manifestation de la grâce de Dieu peut produire des fruits dans la vie des croyants et autour de nous. Imaginez un instant que Barnabas soit arrivé là et ait dit, « OK, je sais, il y en a 62 qui ont accepté le Seigneur, on ne sait pas si c'est tous des vrais. » Fait qu'on ferme les portes, vous arrêtez de prêcher, on va vérifier premièrement si c'est solide. Parce que là, imaginez, si les premiers croyants qui se sont convertis à Antioche n'ont pas bien saisi le message, et c'est eux qui commencent à partager le message, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on va finir avec n'importe quoi, là. Ça va être complètement dilué, ce message-là. Un an de formation. Un an de formation. Écoutez, ce sont des païens qui se sont convertis. Ils ne connaissent rien de l'Ancien Testament. Come on! Survol de l'Ancien Testament, survol du Nouveau Testament. Après ça, vous commencerez à ouvrir la bouche. Si Barnabas est arrivé là avec un esprit critique et s'il n'avait pas été rempli de l'esprit pour se réjouir de ce que Dieu est en train de faire, simplement se réjouir de voir la grâce de Dieu se manifester, à mon avis, il serait venu casser ce qui est en train de se passer là. Mais c'était un homme rempli de l'esprit. Et il avait cette capacité de se réjouir de la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est rempli de l'esprit ici à l'Église? Lorsque des gens viennent vous partager qu'il y a quelqu'un qui a fait profession de foi, est-ce que c'est la sagesse du vieux chrétien qui, connaissez l'expression « kick in » qui rentre puis qui dit « ouais, on le sait, c'est parabole des quatre terres, parabole des quatre terres, on va attendre. Quatre professions de foi, il y en a peut-être un qui va toffer. » Parce qu'on a été blessé, on a vu des amis qui ont fait profession de foi, qui ont abandonné la foi par la suite. C'est vrai. C'est vrai. Mais la sagesse peut des fois être tellement charnelle. C'est pas une sagesse de Dieu, c'est humain, c'est rempli d'incrédulité, ça tue, ça sape. Au lieu de se réjouir profondément, de voir la manifestation de la grâce de Dieu, un frère vient de partager, tu sais, Seigneur m'a parlé, puis j'ai vu ça dans ma vie, j'ai vu qu'il y avait ça dans ma vie. Je suis content que tu le vois, ça fait tellement longtemps que je prie pour ça. C'est quoi, tu viens de dire que tu avais plus de discernement que lui? Saint-Esprit est en train de faire de quoi? Arrière de moi, Satan. Voyez-vous, Barnabas arrive ici, puis il y a la joie de voir la manifestation de la grâce de Dieu. Et on doit chercher à être à l'affût de ça et se réjouir de ça. Et c'est vrai que ce n'était pas tout à fait mature. Regardez ce que Barnabas fait ensuite. Il dit, « OK, les boys, ça vous dérange-tu si on reste une petite année avec vous? Je vais aller chercher Paul. Il est solide, celui-là, je vous le dis. » On va coller ici une petite année, d'accord? On va juste comme affermir tout ça un petit peu. Mais apprenons, frères et sœurs, à nous réjouir sincèrement. Que ce soit avec un chrétien, avec quelqu'un qui vient nous partager quelque chose, puis tu vois que ça vient de Dieu. C'est un germe, c'est peut-être tout petit, mais oh, réjouis-toi. Pousse-le, sois Barnabas qui donne un second souffle à ce mouvement-là de l'esprit. Que ce soit avec des récits de profession de foi. Arrête d'être un sceptique crasse parce que ça fait longtemps que tu ne fais plus ton culte. Tu dis, ouais, tu vas voir après une couple d'années. Non, repens-toi puis laisse l'Esprit recommencer son travail dans ton cœur. Puis réjouis-toi de ça. Parce que entre tes mains, dans ta bouche, tu as la possibilité de donner un second souffle à ce que l'Esprit est en train de faire. De donner une autre propulsion à ce que l'Esprit est en train de faire. et de venir entrer dans cette œuvre-là. Et c'est possible que tu aies plus de sagesse, c'est possible que tu aies plus de discernement, c'est possible que tu vois des choses qu'il ne voit pas à ce moment-là. Mais par ton attitude, tu peux venir casser ou tu peux venir bénir ça. Quelque chose d'extraordinaire que je vois ici dans le passage, et c'est pour ça que j'ai marqué des leaders et des chrétiens qui se réjouissent, encouragent, appuient l'œuvre. Il n'y a pas d'esprit de clocher qui est présent. Je veux dire, c'est Jérusalem qui est comme la maison mère, tu sais, puis là, c'est pas une œuvre implantée par Jérusalem, puis tu sens pas cette espèce de jeu-là où Barnabas arrive puis il dit non, mais c'est mon église qui devait implanter cette église-là, ça devait pas venir de vous, cette affaire-là, et ça va dans les deux sens. Ces premiers hommes qui étaient là, qui ont implanté cette église, ne se sentaient pas propriétaires de l'église. C'est pas mon église, ton église, c'est l'œuvre de Christ. Vous savez comment on peut être des fois quand Dieu nous met quelque chose à cœur, puis on est à l'origine de quelque chose, puis une idée, puis « Seigneur, ça te dérange pas si je partage la gloire avec toi pour cette affaire-là? » Fait que si quelqu'un d'autre veut dire que c'est Jésus et son nom, on va dire Jésus et Yannick qui ont eu cette idée-là, c'est correct, Seigneur? Comprenez? Mais cette gang-là, eux autres, c'était pas là dans leur esprit. Alors, il n'y a pas de ton église, mon église, c'est l'œuvre de Christ, et l'œuvre de Christ appartient à Christ. Elle n'appartient pas à l'église de l'espoir, à l'église ci, à l'église ça, à moi, à toi. C'est l'œuvre de Christ. Il n'y a personne qui est propriétaire de ça. Et donc, je vois aussi de l'humilité de la part de ces premiers hommes qui sont allés annoncer et qui voient Barnabas qui arrive. Puis Barnabas, il dit, ça vous dérange pas si on colle les boys? C'est vraiment hot ce qui se passe ici. Dans sa sagesse, il dit, ça serait bon de fortifier les bases. Et là, qu'est-ce qui se passe? Chacun va servir selon ses dons. Ces premiers missionnaires naturels ont annoncé l'Évangile, ils ne sont pas propriétaires de l'Église. Barnabas s'en va chercher Paul, qui est probablement un docteur, Barnabas plutôt prophète, et ils vont travailler ensemble pendant un an à fortifier. Et on ne sent pas non plus de réticence de la part de ces premiers hommes qui disent « Attends un petit peu, là, c'est notre affaire, cette affaire-là, le Saint-Esprit a travaillé à travers nous, ici. » Fait qu'on te demanderait d'approuver ce qu'on va faire ici. Chacun sert selon ses dons parce que personne n'est propriétaire de l'œuvre de Christ sinon Christ. Personne n'est propriétaire des serviteurs de Christ sinon Christ. Amen. Et ce que ça donne tout ça, c'est l'établissement de la première église des nations dans la troisième plus grande ville de l'Empire romain. Qui va devenir le camp de base pour la mission vers les nations. Et Luc veut nous montrer que cette église-là et l'œuvre que Christ est en train de faire ici est aussi belle que celle qu'il a fait à Jérusalem. Regardez la fin du passage. En ces temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Rappelez-vous l'Esprit qui régnait dans l'Église de Jérusalem dans les premiers chapitres des Actes. Cette générosité qui était là, cet oubli de soi pour prendre soin les uns des autres. Luc décide de l'illustrer ici d'une manière encore plus touchante. Parce que cette Église des nations prend à cœur des frères et sœurs qui sont à Jérusalem. Et chacun selon ses moyens va regarder et ils deviennent donc généreux comme les chrétiens de Jérusalem l'ont été. On voit l'œuvre de l'Esprit, c'est la même œuvre qui est bâtie là, vous voyez. Mais dans ce cas-ci, elle franchit toutes les barrières pour prendre à cœur tout le royaume de Dieu. L'œuvre de Dieu partout sur la terre. Des frères et sœurs qui sont ailleurs dans une autre église. Ça, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Évangile de Jésus-Christ qui s'est manifesté dans la vie de quelques hommes. Qui avaient entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui sont venus à la connaissance personnelle de Christ, qui ont reçu son esprit, qui ont eu à cœur spontanément, sans direction particulière du leadership, un groupe d'individus qui n'étaient pas atteints par l'Église et qui se sont dit, « Ben nous, pourquoi nous, on n'irait pas? » Et ils ont pris l'initiative d'y aller. Ils ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Puis ils ont vu Dieu bénir, mais jamais dans leur pensée, ils se sont dit, « Wow! » Et je pense qu'on va partir des franchises de cette affaire-là. On est vraiment hot. C'est l'œuvre de Christ. Alors les leaders arrivent. Et les leaders voient simplement la grâce de Dieu qui se manifeste et se réjouissent de ça. Et leur joie les pousse à l'encouragement. Ça donne un second souffle à cette œuvre-là. Et il y a une collaboration humble où chacun va servir selon ses dons. Et peut-être que dans les premiers leaders, il n'y avait pas des docteurs qui étaient là pour fortifier, pour affirmer, pour s'assurer que les chrétiens soient solides dans leur foi, qu'ils puissent s'attacher au Seigneur Jésus à long terme dans leur vie. Et donc, il y a cette collaboration qui se fait là où on vient affirmer cette œuvre merveilleuse de l'Esprit de Dieu et la bonne main du Seigneur les accompagne. Et quelques temps plus tard, on trouve quelque chose d'aussi beau que ce qui s'est passé à Jérusalem. Frères et sœurs, la semaine dernière, j'ai posé la question, à la fin de la prédication, qu'est-ce qui doit changer dans la pensée de l'Église de l'Espoir pour que nous entrions davantage dans la mission? Vous vous rappelez, je vous ai posé cette question-là? Parce qu'on a parlé la semaine dernière de, en quelque sorte, deux conversions. Corneille et sa famille, mais d'un autre côté, la pensée de l'Église qui a été bouleversée par Dieu, qui a provoqué des réflexions en lui. Et j'ai posé cette question, oui, mais nous, ici, à l'Église de l'Espoir, qu'est-ce qui doit changer dans notre manière de voir les choses? Est-ce que ça se pourrait qu'une partie de la réponse se trouve dans cette initiative spontanée de gens qui ont l'Esprit de Dieu et qui prennent à cœur de partager l'Évangile? Est-ce que ça se pourrait qu'une partie de la réponse se trouve dans cette idée qu'on doit toujours se réjouir des manifestations de la grâce de Dieu? On doit encourager cela, on doit appuyer cela. Est-ce qu'une partie de la réponse pourrait se trouver dans le fait que, humblement, personne n'a le sentiment d'avoir le droit de s'approprier l'œuvre de Dieu, mais vient se placer au service? Un leadership qui est là et qui dit, « Tu as quelque chose à cœur, viens, on va t'appuyer, on va t'équiper, on va essayer de t'aider là-dedans. Notre travail à nous, c'est de vous équiper. » Est-ce que ce ne serait pas dans ces réponses-là que se trouverait ça? Que le Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs, afin que nous puissions prendre à cœur de plus en plus de jour en jour, de partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et allez-y selon votre cœur, les gens que Dieu place autour de vous. Ça ne fonctionne pas avec une personne, ne vous découragez pas. Essuyez la poussière de vos gougounes, puis passez au prochain appel, allez annoncer l'Évangile. Et la bonne main du Seigneur va être avec vous et va être avec nous. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir parce que tu as donné une promesse dans Matthieu 28, elle nous est relatée. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Et j'aime tellement lire et étudier le livre des Actes parce que je vois, Seigneur, que tu es une personne qui respecte ses promesses. Je vois, Seigneur, que tu as accompagné cette œuvre. Et chaque fois que j'entends la nouvelle d'une conversion, de quelqu'un qui a cru dans la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, je me réjouis, Seigneur. J'ai cette joie et je veux encourager, Seigneur. Parce que ceci me dit que tu tiens encore aujourd'hui tes promesses. Et encore aujourd'hui, tu établis des églises et tu conduis des âmes à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, tu places dans notre cœur des fardeaux, des désirs, des visions pour sortir des sentiers battus et simplement aller proclamer Christ en toute simplicité, sans attendre. Seigneur Jésus, je te demande de faire une œuvre au milieu de nous. Puissante, Seigneur. Viens, Seigneur, et sanctifie-nous. Pour chacun d'entre nous qui avons attristé l'esprit en laissant des idoles s'installer dans nos cœurs, Seigneur, des choses qui nous ont distraits de ton royaume. Seigneur, mets-les devant nos yeux. Afin que nous nous rappelions, Seigneur, que tu désires un amour sans partage. Et que ton esprit, Seigneur, nous accorde la grâce de se repentir, la force, Seigneur, de chasser ces distractions de nos cœurs, de nos vies, pour nous consacrer entièrement à toi. Seigneur, aie pitié de notre incrédulité, parce que nous avons partagé une fois, deux fois, trois fois la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et peut-être qu'on a été mal reçus. Ou peut-être qu'une profession de foi s'est avérée fausse avec les mois, les années. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Viens nous apprendre à nous réjouir, Seigneur, de tout ce que tu fais, de toutes les manifestations de ta grâce. Garde cette Église d'avoir un esprit de clocher qui se verrait propriétaire de l'œuvre de Dieu, ici à Longueuil, ici au Québec. C'est ton Église et c'est ton œuvre, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Christ, et nous voulons que tu règnes dans nos cœurs. Transforme-nous à ton image. Père, c'est en le précieux et beau nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.